Nous sommes en ligne avec Bernard. Ça fait plaisir de vous retrouver après ces vacances. Bonjour Bernard.
Mais
Bernard
Adedoif. Et le plaisir de retrouver aussi les auditeurs de Radio Shalom, bien sûr.
Dites-moi, certains pensaient que le gouvernement Bennett ne pourrait pas tenir plus d'une semaine, mais pourtant, il est là depuis près de 3 mois. Il va donc passer son premier Rosh Hashanah. Est-ce qu'il va tenir jusqu'au second Rosh Hashanah en 2022? Dites-moi.
Alors, vous avez raison de poser la question, parce qu'en fait, tout le monde se disait, est-ce qu'il va tenir jusqu'à Rosh Hashanah? Alors maintenant, la question qu'on va se poser ce soir, c'est est-ce qu'il va tenir jusqu'au prochain Rosh Hashanah ? Alors déjà, il faut savoir que le fait qu'il soit toujours là, c'est un exploit. Pas seulement parce qu'il est face au monstre sacré de la politique israélienne qui s'appelle Benjamin Netanyahou, qui a vraiment tout fait pour le faire tomber, mais parce que chacun connaît le caractère hétéroclite de ce gouvernement, et donc à partir de ce moment-là, on ne donnait pas cher de sa peau quoi, quand il est parti. Mettre des sionistes religieux de droite avec des arabes israéliens qui se revendiquent plus ou moins de la mouvance des frères musulmans, on n'imaginait pas que ces gens-là pourraient faire un seul gouvernement, et ils tiennent. Et très franchement, ça n'est pas démagogique de dire que c'est déjà un acquis important. Il a réussi à faire passer le budget de l'État, et donc il a de toute façon rendu service à l'État d'Israël, puisque ce n'était pas possible de reprendre une troisième année sans budget, parce qu'un État qui n'a pas de budget est un État qui est en cessation de paiement, qui ne fonctionne plus. Par exemple, prenons des exemples concrets qu'on connaît nous à Paris. Par exemple, on ne prenait pas de décision par rapport au retour ou non d'Israël à l'UNESCO parce qu'on ne savait pas, il n'y avait pas de nouvel ambassadeur parce qu'on ne savait pas, il n'y avait pas de crédit pour les politiques étrangères, etc. Et donc, de toute façon, c'est déjà un acquis. Mais alors après, ce n'est pas suffisant parce qu'on ne peut pas dire « qu'est-ce que vous avez fait de bien ?» Ben, c'est que je suis toujours là. Non. On va essayer de voir ce que fait ce gouvernement et quelles sont ses chances de réussir. Si vous voulez, par rapport à ce gouvernement, la question qu'on pose généralement aux Israéliens, en fait, il y en a trois. La première, c'est « est-ce que vous préférez ce gouvernement plutôt qu'une nouvelle élection ?» Ce qui ne veut pas dire forcément… Vous entendez bien hein, la musique, Serge, la musique de la phrase.
Bien sûr.
Ce qui ne veut pas dire forcément est-ce que vous préférez ce gouvernement aux autres. Mais est-ce que vous préférez ce gouvernement plutôt qu'une nouvelle élection? Et là, généralement, la coalition actuelle sort vainqueur de cette question parce que les gens ne veulent pas de nouvelles.
On en a marre, on ne veut pas revenir vers une quatrième fois en 2 ans.
La deuxième chose, c'est... Combien pensent que ce gouvernement effectivement va durer? Et là, généralement, les scores sont très bas jusqu'à aujourd'hui, même si petit à petit, ce gouvernement prend sa place. Par exemple, la rentrée scolaire a eu lieu. On va critiquer les politiques. Est-ce qu'il fallait qu'elle ait lieu pour quelques jours seulement? Est-ce que c'était nécessaire de faire une rentrée? C'est une question politique. Mais par rapport à sa capacité de gouvernement, l'équipe de Yair Lapid a montré qu'elle a réussi sa rentrée.
Et ils ont réussi aussi par rapport à ce qui s'est passé du côté de Gaza et des attentats, enfin des attentats, des problèmes. Ils ont réagi d'une manière assez ferme. Donc ils ont prouvé qu'ils étaient aussi fermes que l'ancien gouvernement, on va dire.
Oui, tout comme le processus diplomatique qu'on nous annonçait comme mort, puisque c'était ou avec Benjamin Netanyahou ou rien. Tout comme le processus diplomatique s'est poursuivi. Et même on parle aujourd'hui d'un accord historique pour du pétrole. Pas que les Émirats vont livrer du pétrole à Israël, mais que la paix et la coopération économique est telle qu'aujourd'hui on envisage sérieusement, et d'ailleurs normalement on va le faire, les Émirats vont faire passer leur pétrole vers l'Europe en passant par Israël. Quand on en est à monter des projets de ce type-là, c'est plus seulement des échanges ou du troc ou tout simplement des échanges bilatéraux. Quand on commence à développer comme ça, à construire de cette manière, c'est sûr que ça se poursuit. Et donc, ce gouvernement a effectivement montré que tout ce qu'on avait promis comme catastrophe jusqu'à présent n'a pas lieu. La troisième question qu'on demande aux Israéliens, c'est est-ce que vous pensez que ce gouvernement est de droite? Voilà, c'est encore une autre question. Et c'est mitigé. Alors que Naftali Bennett est très clairement de droite.
Bien sûr.
Gantz a jamais dit qu'il était de gauche. Yair Lapid est plutôt un démocrate télévivien. Et Gideon Saar vient du Likoud, sans parler d'Avigdor Lieberman. Mais... troisième question, combien d'Israéliens pensent que ce gouvernement est de droite? La réponse n'est pas toujours évidente. Tout le monde s'accorde pour dire que ce gouvernement tient pour un objectif clair, c'est d'éviter le retour au pouvoir de Benjamin Netanyahu.
C'est ce que j'allais dire, oui.
Et là, on a encore une fois deux lectures. La lecture de l'ancienne équipe au pouvoir dit, vous voyez, ce gouvernement ne tient que sur la haine et le ressentiment, que sur la vengeance, la... C'est pas une politique, tout sauf Bibi. C'est pas, c'est quelque chose qui justement ne peut pas tenir. Et puis en plus de ça, il n'y a pas de corps. Mais dans le camp Bennett-Lapid, on dit la même chose. On dit on ne veut pas le retour au pouvoir, Benjamin Netanyahou. Et c'est la raison pour laquelle on tient. D'ailleurs, Yair Lapid a donné une interview très remarquée à la télévision israélienne il y a seulement quelques jours, où il a dit, nous pensons, nous sommes là parce que nous pensons tous qu'au moins pour un temps, il y a quelque chose de plus important que nos intérêts aux uns et aux autres. C'est quelque chose d'au-dessus. Et ils l'ont montré. Et d'ailleurs, donc dans le camp Lapid, quand on vous dit, mais vous êtes là que parce que vous voulez pas Bibi, c'est pas sérieux, c'est pas une politique, eh bien, les partisans de Lapid disent, ah si, tout à fait. Parce que regardez ce qu'on a en face. Ce qu'on a en face, c'est simple. Aujourd'hui, ils sont quasiment tous des anciens du Likoud, Lieberman, Bennett, etc. Après le départ de Gantz, qui n'était pas du Likoud, mais qui était obligé de quitter le gouvernement, dit-il, parce qu'il a été poussé dehors par Netanyahou. Après le départ de tous ces gens, qu'est-ce qui reste? Il reste la famille Netanyahou, les kahanistes, donc la droite de
Oui, la
l'ultra-droite,
droite, oui, bien
droite
sûr,
raciste,
l'ultra, oui.
et les orthodoxes. Mais si la coalition, c'est-à-dire l'alternance qui est proposée, c'est la famille Netanyahou, les kahanistes et les orthodoxes, ben, dans le camp Lapid, dans le camp Gantz, dans le camp, on dit, ben, nous, on veut éviter ça. Parce que ça, c'est un gouvernement extrémiste, disent donc les partisans de Bennett, et on n'en veut pas.
Oui, il y a aussi le fait que finalement, l'Israël est comme les autres pays, parce que dans beaucoup de pays, on n'élit pas quelqu'un, on vote contre quelqu'un. Bon, ensuite, en fonction du système électoral israélien, on ne peut pas avoir, comme en France, avec on arrive à avoir une personne qui arrive à dominer tout le monde, même s'il a que 20-25% des votes au premier tour. Mais dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Désormais, on vote contre. Aux États-Unis, on a voté contre pour Trump pour avoir Biden.
Et donc après, on va arriver à la fin, mais bon, on va devoir conclure là-dessus. Mais votre question était, est-ce que ça va durer? Mais alors qu'on pourrait dire que le plus important va être ce que je vais dire maintenant, c'est-à-dire la fin, c'est oui, mais comment réagit ce gouvernement face au grand dossier? Il y a un éditorial du Jerusalem Post qui dit, la triste réalité de Naftali Bennett, c'est que le corona est plus grand que lui. C'est-à-dire, c'est lui, il est bien, mais c'est un gentil premier ministre, mais le corona, c'est une grande maladie, il ne sera pas capable de le faire. Or, à nouveau, on voit que, en tout cas, il est tout à fait responsable, il l'a
Bien
réalisé.
sûr.
Alors, mais par contre, là, après, on recommence à faire de la politique. Tu veux le bidoud, tu veux pas, tu veux le confinement, tu veux pas. Il fallait dire dès le début qu'il n'y aurait pas la rentrée scolaire, etc. Après, c'est de la politique. Tout comme la question qui se pose, après la mort d'un soldat, c'est pas vraiment un soldat parce qu'il est membre de la police des frontières, mais la police des frontières, bon, en fait,
C'est presque pareil.
Oui, c'est des soldats. Il est mort, et il est mort parce qu'il n'était pas positionné au bon endroit, et ça, c'est sa hiérarchie qui est responsable, comment ça se fait qu'il n'était pas protégé. Ça n'est pas à Naftali Bennett de dire à 200 ou 300 mètres près où doit être le soldat. Lui, il fait pas ça. Même Netanyahou, on
Évidemment.
ne lui demandait pas de le faire. Par contre, on veut savoir quelle sera la réponse. Et là, c'est une question politique. Et là, on refait de la
Et on
politique. Il
va
n'y a plus de
refaire de la
sentiments.
politique. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dimanche prochain, parce que c'est un feuilleton qui va durer, durer, durer. Merci Bernard.
C'est moi.
En tout cas, puisqu'on arrive à Rosh Hashanah, on va en profiter pour écouter les vœux du président Herzog qu'il a publié hier sur le réseau. Et voilà, c'est une bonne manière de terminer cette conversation. Les bons vœux du président israélien. On l'écoute.